Super Fail, Guillaume Erner.
Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer.
Super Fail.
Les TER sont souvent les trains de l'enfer, et pas seulement parce que ça rime, des trains bondés, manifestement sous-dimensionnés, ils sont aussi parfois des trains fantômes, comme l'a révélé un article du Monde qui a fait grand bruit le 15 octobre dernier. Les TER, c'est le Super Fail de la semaine.
11 000, c'est le nombre de TER supprimés dans les Hauts-de-France depuis le 1er janvier 2022. Je vous parle des Hauts-de-France parce que c'est ma région. Je pourrais vous parler tout aussi bien de toutes les régions de France, y compris l'Île-de-France. Monsieur le ministre, les usagers quotidiens du train sont des salariés, des gens qui prennent le métro, le train, le RER pour se rendre de leur lieu de travail à leur domicile. Et ils ont accepté des emplois ou des logements, loin l'un de l'autre, parce qu'il y avait des transports collectifs. C'est ce qui structure et qui détermine leur organisation de vie. Et l'imprévisibilité des transports publics désorganise totalement leur vie.
Donc maintenant, on devra prendre le 8h02 à Sarlat pour arriver à 9h13 à Bergerac. Donc c'est impossible maintenant d'arriver à 9h pour le boulot.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les TER sont opérés par la SNCF, mais leur gestion relève de la compétence des régions. On écoute à ce sujet Patricia Perrenne, elle est consultante à transmission et spécialiste des transports.
Si vous regardez, si vous êtes dans une ville, vous avez parfois de la distribution d'eau qui est gérée par la municipalité, mais qui est faite par des entreprises privées. Si vous habitez à la campagne, vos enfants prennent le car tous les jours peut-être pour aller à l'école, et évidemment ce ne sont pas des agents municipaux qui conduisent ces cars, ce sont des entreprises qui ont été sélectionnées par la mairie sous forme de marché ou de délégation de services publics. Et dans le TER, en fait, c'est pareil. On a fait la même chose qu'on a fait dans d'autres secteurs, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'il y a une autorité organisatrice qui décide de l'offre, parce que c'est elle qui est élue, qui a la légitimité démocratique, pour vraiment choisir quelles gares doivent être desservies, avec quelle fréquence, et qui finance pour ça, et un opérateur, qui est la SNCF. La différence par rapport aux autres secteurs que je viens de vous présenter, donc transport par autocar, distribution d'eau, c'est que là, aujourd'hui en France, pour l'instant, il n'y a que la SNCF qui exploite. C'est-à-dire que la région, elle n'a pas le choix et c'est toujours SNCF qui exploite. Donc il faut vraiment que vous ayez conscience et que les auditeurs aient conscience, c'est que les TER ne sont pas rentables. C'est-à-dire que quand vous achetez des billets, le prix des billets, si vous les additionnez, et que vous regardez le coût pour faire rouler des TER, eh ben, il manque 75% de la somme. C'est-à-dire que le prix des billets ne couvre qu'un quart du coût des TER et que les trois quarts qui restent sont payés par la collectivité, donc les régions, l'État. Donc si on part de là, on se dit, en gros, ça coûte de l'argent à la collectivité, c'est pas à la SNCF de décider comment on dépense l'argent qui est collecté par l'impôt. On voit bien qu'il faut qu'il y ait une légitimité démocratique pour ça. Et c'est bien pour ça qu'on a décidé, donc c'était en l'an 2000 en l'occurrence, avec la loi SRU, de donner aux régions le droit de décider quelle est la desserte sur leur territoire, parce que c'est elles qui ont la meilleure vision locale pour savoir comment dépenser l'argent public dans le transport ferroviaire.
Un article du Monde, le 15 octobre dernier, évoquait plus de 11 000 TER supprimés dans la seule région Hauts-de-France en 2022. Comment l'expliquer ?
Ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est que quand il y a eu le transfert des TER, donc qui étaient gérés au niveau national par SNCF et l'État aux régions, il y a une certaine somme d'argent qui a été transférée et qui depuis n'a pas été réévaluée. Donc en fait, la région n'a pas plus d'argent depuis l'an 2000. Donc à un moment, on arrive un peu dans une impasse où on a un problème de sous-dimensionnement des trains. Bon, une fois que j'ai dit ça, l'article insiste sur un autre problème, qui est un problème conjoncturel en ce moment, mais qui touche pas que le secteur des transports, qui est le manque de conducteurs, le manque de personnel. Enfin, d'ailleurs, ça, je pense que toute la journée, on en parle sur vos antennes. On a du mal à trouver du personnel pour des métiers qui sont un peu pénibles et qui sont pas payés des milliers et des cents. On a beaucoup fantasmé sur le statut de cheminot, mais en attendant, c'est des horaires décalés, des levées très matinales, et en plus, pour les dessertes dont on parle, là, ici, notamment autour de Creil, c'est pas les territoires les plus attractifs. À la SNCF, il y a des territoires, donc sans vouloir caricaturer le sud de la France, où on a plus de facilité à recruter des conducteurs qu'en Île-de-France ou dans le nord de la France. Voilà. Donc, la SNCF, comme d'autres entreprises, manque de personnel, Et quand on manque de personnel, eh ben on réduit la voilure. Et c'est là le problème, en fait, majoritaire en ce moment. Il y a un problème chronique de fond depuis plusieurs années, parce que le réseau est en mauvais état, parce que les régions ont atteint le maximum de ce qu'elles pouvaient faire, étant donné le budget dont elles disposent. Mais là, en plus, conjoncturellement, il y a ce problème de recrutement. Et du coup, qui fait qu'il y a 100, une centaine de trains supprimés par jour, environ 10% des trains, quoi.
La principale explication des problèmes rencontrés par les usagers des TER tient à l'état de notre réseau ferroviaire, l'un des plus vieux d'Europe. On écoute à ce sujet Patricia Pérenne.
Depuis au moins 20 ans, on a eu les premières alertes sur l'état de l'infrastructure. On a eu aussi des rapports qui étaient faits par une université suisse depuis les années 2010 qui disent voilà, l'infrastructure est en mauvais état. Et c'est vrai que cette volonté de faire des économies, de faire attention au budget, ça a mené à ce qu'on ne fasse pas des rénovations, qu'on repousse toujours des rénovations qui sont nécessaires. Et donc l'infrastructure voilà, se dégrade lentement. Ça ne se voit pas tout de suite. Il faut 10-20 ans pour que ça se voit. Et on se retrouve avec un réseau où régulièrement il y a des petits problèmes, où c'est vraiment dégradé l'état. Du coup, on ralentit les trains parce que pour garder la sécurité, qui est la priorité du secteur ferroviaire, on va ralentir les trains. Mais on va avoir voilà, un problème de caténaire ici, un problème de station par là. Il y a aussi quelque chose qui est évoqué dans l'article, qui est intéressant, qui commence à être connu, qui n'était pas. C'est ce qu'on appelle les postes d'aiguillage, c'est-à-dire la signalisation des trains, dont certains datent des années 30. C'est-à-dire qu'on a laissé, pour faire le guidage des trains, des postes qui datent des années 30. Donc évidemment, au bout d'un moment, on n'a pas une technologie qui est à la pointe.
Le poste 1, à l'entrée côté Paris, avec ses 120 leviers en ligne, était par ses dimensions un des plus importants du genre en service sur la SNCF. Tout mouvement de train intéressant sa zone d'action nécessitait de laborieuses manœuvres de levier de la part des aiguilleurs. Les transmissions par fil et par tringle entraînées par des leviers, eux-mêmes enclenchés mécaniquement entre eux, s'étendaient en nappes impressionnantes au départ des postes et jusqu'aux aiguilles et aux signaux mécaniques qu'elles commandaient.
Un reportage réalisé en 1950 par la section cinématographique de la SNCF. Or, notre réseau ferroviaire est géré non pas par les régions, mais par SNCF Réseau, une entité de la SNCF qui est financée directement par l'État. Or, l'État a décidé de réduire de manière significative les fonds alloués à SNCF Réseau. Récemment, en 2022, un nouveau contrat de performance a suscité de vives critiques chez l'ensemble des acteurs du secteur. Tous pointaient du doigt le manque d'ambition de ce contrat, le peu de fonds alloués par l'État pour moderniser notre réseau ferroviaire.
Ça, c'est quelque chose qui a été reconnu dans toute la profession. Il y a eu tout un débat là-dessus très récemment. Parce qu'il y a un contrat, en fait, entre SNCF Réseau et l'État, qui dit qu'est-ce que SNCF Réseau doit faire et combien l'État lui donne d'argent pour ça. Et dans ce contrat-là, qui était signé juste avant les élections présidentielles, eh ben, il y a un renoncement. Le contrat dit, le réseau va se continuer à se dégrader. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas assez d'argent, on sait, le réseau va continuer à se dégrader, on ne peut pas faire autrement. Donc voilà, pas le réseau le plus structurant, pas les lignes principales entre Lille et Paris, par exemple. Dans l'article en Hauts-de-France, il parlait de la ligne, par exemple, de Beauvais au Tréport. Cette ligne-là, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'argent pour elle dans ce contrat. Voilà, donc clairement, il y a un sous-financement qui est chronique, qui est reconnu. Il y a un contrat qui a été signé entre l'État et SNCF Réseau, où si on regarde les annexes, ils disent, voilà, pour les lignes de moyenne taille, ça continuera à se dégrader parce qu'on n'a pas assez d'argent. Et tant pis, à la limite. Et c'est là que c'est hyper cynique. Parce que pour que des trains roulent, il faut que le rail soit en bon état. Enfin, c'est la base. On construit une maison par ses fondations. Et c'est là qu'on a un vrai souci. Il va falloir des années et des années pour rattraper les décennies de sous-investissement dont on sort.
En septembre dernier, c'est le PDG de SNCF Réseau, Luc Lallemand, qui a été remercié par l'État parce qu'il avait critiqué ce manque d'investissement.
Luc Lallemand, il a été remercié pour toutes les raisons qui fait qu'on allait le chercher. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas français et à qui on donne une mission précise. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous parlais de ces vieux postes là, des années 30 qui traînent un peu partout en France. En fait, lui, en Belgique, ce qu'il avait fait, c'est que justement, il avait permis que ces vieux postes disparaissent et soient remplacés par ce qu'on appelle la commande centralisée. Et puis, lui, il a pris le travail au sérieux, quoi. Enfin, il a dit quand il n'avait pas assez de moyens, il n'a pas mis les rondeurs, je pense qu'on aurait attendu. Mais oui, il a été remercié, je pense, en partie pour ça, parce qu'on lui avait confié une mission quasi impossible. Et il le disait, quoi. Enfin, il disait ce qu'il pensait.
Mais alors, la solution ne réside-t-elle pas dans l'ouverture à la concurrence qui est effective depuis 2019 dans les régions? Cette concurrence pourrait-elle permettre d'augmenter, d'améliorer l'offre ferroviaire?
Donc, il y a le droit européen qui impose l'ouverture à la concurrence pour tous les nouveaux contrats à partir de décembre 2023. Très concrètement, ça veut dire que comme un contrat peut être attribué pour encore 10 ans, à l'horizon 2032, en gros, ça sera concurrence obligatoire. En attendant, et depuis 2019, les régions qui le souhaitent peuvent choisir un autre prestataire. Et donc, il y en a certaines qui ont commencé à le faire. Et vous avez dû entendre parler de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a fait un appel d'offres pour deux, ce qu'on appelle lots. Donc, des lots, c'est des paquets de lignes. Il y en a un qui a été attribué à SNCF Voyageurs. SNCF Voyageurs a gagné cet appel d'offres. Et l'autre qui a été attribué à Transdev, qui est un concurrent, mais filiale de la Caisse des dépôts, donc un concurrent français. Bon, il y a d'autres régions qui sont en cours de mise en concurrence. Les Hauts-de-France, Pays de la Loire, Grand Est, voilà. Donc, il y a d'autres régions qui sont en cours. Donc, c'est possible. Par contre, c'est pas immédiat. C'est-à-dire que l'appel d'offres, après, il faut que les salariés soient transférés, comme pour n'importe quelle délégation de service public. Il faut que les trains soient transférés au nouvel opérateur. Donc, ça va... Pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça a été attribué en octobre 2021 et les trains y rouleront en 2023. L'espoir dans tout ça, c'est que dans les pays qui ont ouvert à la concurrence de façon raisonnée, c'est-à-dire pas la Grande-Bretagne qui a privatisé son réseau, mais en Allemagne et en Suède, l'ouverture à la concurrence, ça s'est traduit, on estime, par une baisse de 20 à 30% des coûts. Donc, c'est-à-dire, chaque train, vous le payez 20 à 30% moins cher.
Mais pour accueillir plus de trains sur nos lignes, il nous faut un réseau modernisé. Dans l'état actuel, l'ouverture à la concurrence ne peut pas avoir les effets escomptés. Pour Patricia Perrin, le nœud du problème est toujours au niveau des rails et donc des investissements de l'État. On l'écoute.
Cet article du Monde, moi, je l'ai trouvé vraiment très intéressant parce qu'il parle de cette réalité. C'est-à-dire qu'on a à la fois la demande des pouvoirs publics de prendre le train c'est vertueux, etc. Et puis un sous-investissement chronique, notamment dans l'infrastructure. Bon, là, ça commence à se voir. Ça commence à se voir et du coup, on espère qu'il y ait un alignement des planètes qui fasse que on remette les choses à plat et on se dise oui, il faut investir plus dans le réseau ferroviaire parce qu'il n'y a pas de miracle. SNCF Réseau, on peut leur reprocher de ne pas être parfait, ils pourraient être plus efficaces, ils pourraient être plus orientés vers les usagers finaux qui prennent les trains. Voilà, on peut leur reprocher plein de choses, mais à un moment, avec deux fois moins de moyens que d'autres pays européens, ils ne vont pas faire aussi bien. Donc on espère qu'à un moment donné, le discours sur il faut sauver la planète en prenant les transports en commun... qu'il y ait des actes derrière. Parce qu'on a réussi à bloquer le prix de l'essence. Ça a coûté beaucoup d'argent au gouvernement. Est-ce qu'à un moment donné, le rail, ça devient la priorité? Voilà. Bon, il ne faut pas injecter de l'argent sans regarder où ça va, évidemment. Mais à un moment, il faut sauver le réseau ferroviaire. Et pour ça, il n'y a qu'un grand plan d'investissement. Voilà, ils le font en Allemagne, ils le font en Italie. On ne pourra pas faire plus de trains. Et d'ailleurs, c'est un autre souci qui est souligné, je ne sais pas si vous avez vu dans l'article du Monde, il parle de ça en disant « La région avait prévu beaucoup plus de trains qu'initialement, mais en fait, ça ne passe pas, c'est compliqué. Ils ont du mal à tenir tous ces trains à la SNCF, à la fois pour le manque de conducteurs, mais même en fait, en général, pour qu'il y ait autant de trains, il faudrait faire des petites adaptations du réseau d'infrastructures pour faire tenir plus de trains sur un réseau équivalent. » Et donc, en fait, on ne pourra pas augmenter le nombre de trains indéfiniment si on n'investit pas dans certaines installations électriques, certaines installations de voies qui permettent des doublements. Enfin, il y a des investissements à faire dans le réseau si on veut sérieusement augmenter l'offre.
La conclusion de ce Superfell est que le train est bien sur les rails, mais les rails sont défectueux. Alors, s'il s'agit de faire rouler plus de trains, il faudra bien à un moment ou à un autre que l'on réussisse à repenser notre modèle ferroviaire. Superfell a été gâché à la production par Juliette Deveau, ruiné à la réalisation par Félicie Faugère et Mydia Portis-Guérin. Superfell.